Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Bienvenue dans votre émission Les yeux au ciel qui vous propose de découvrir les merveilles de l'espace et des étoiles. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une étoile un peu particulière, une étoile invisible. Ou plus précisément d'une ancienne étoile qui s'est transformée en trou noir. Elle se situe dans la constellation du Sagittaire. Si vous êtes en été, en début de soirée et dans l'hémisphère nord, vous la trouverez vers l'horizon sud-est. C'est le Sagittaire, un signe du zodiaque bien connu. On ne sait pas toujours à quelle image associer le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un archer. D'ailleurs, son nom vient du latin Sagittarius, qui veut dire archer. On l'appelle aussi l'arcifère, ça veut dire le porteur d'arc. Il est souvent figuré par un centaure, qui est une chimère mi-homme, mi-cheval, avec le torse d'un homme et le corps d'un cheval. Ce qui lui donne en tout 6 membres. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais là-dessus, les sources ne sont pas toutes d'accord. Il semblerait bien que le rapprochement entre les Sagittaires et les Centaures soit assez récent, car Johann Bayer, dans son Uranometria, catalogue des constellations célestes publié au XVIe siècle, ne décrit pas le Sagittaire comme un Centaure, mais il ne décrit qu'un arc, un carquois, une main armée d'un trait, et qu'on appelait à l'époque la constellation de l'arc ou le signe de l'arc. Ceux qui se refusent à y voir un Centaure disent que jamais les Centaures ne firent usage de flèches. D'autres ajoutent que le Sagittaire est debout et qu'il n'a que 2 pieds. Cependant, dans les Fabulae du Romain Hyginus, qui répertorie les mythes grecs et romains, l'homme du Sagittaire a bien des pieds de cheval et une queue de satyre, ce qui l'assimile quand même au Centaure. Quelques auteurs l'appellent Crotus, le fils d'Euphémée, la nourrice des muses. Il habitait sur le mont Hélicon, où il vivait en intimité avec elle et se livrait aux exercices de la chasse. Ses talents lui acquirent beaucoup de réputation. Il réunissait la finesse d'esprit, la rapidité à la course. Et pour rendre compte de cette double idée, Zeus, en le plaçant dans les cieux, lui donna les pieds d'un cheval, dont il avait fait beaucoup d'usage, et lui mit en main la flèche, qui symbolisait en même temps la vitesse. On le fait aussi petit-fils de l'océan, de Poséidon, en lui prêtant un goût pour la navigation, ce qui peut expliquer pourquoi il est situé juste à côté de la constellation du Verseau. La constellation du Verseau n'est plus connue en tant que telle. Elle représentait dans l'Antiquité le fameux Argo, le bateau de Jason, dans l'aventure de la Toison d'Or. Mais la constellation est si grande qu'elle a été divisée en plusieurs constellations par l'astronome Nicolas-Louis de Lacaille dans les années 1750. On connaît maintenant la carène, la poupe et les voiles, auxquelles on ajoute aussi la constellation de la boussole. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est sans doute parce que c'est une constellation du ciel austral qui n'est pas bien visible à nos latitudes. La Voie lactée est particulièrement dense à l'endroit où elle traverse le Sagittaire. Comme vous le savez, la Voie lactée, c'est notre galaxie. Quand on regarde vers le Sagittaire, on regarde en fait vers le centre de notre galaxie. Notre galaxie, c'est une galaxie spirale. Les étoiles qui la composent se comptent en milliards. Elles sont regroupées sous la forme d'un immense disque. Dans ce disque, il existe des zones plus denses et des zones plus vides. Les zones denses forment des bras en forme de spirale autour du centre de la galaxie. Les étoiles tournent autour du centre de la galaxie comme les planètes tournent autour du Soleil. La révolution complète dure 200 millions d'années. Et notre système solaire est situé plutôt en périphérie de ce disque. La Voie lactée, telle qu'on la voit dans le ciel, c'est donc notre galaxie mais vue par la tranche. Quand notre regard parcourt le tracé blanchâtre de la Voie lactée, on voit plusieurs bras spiraux en même temps, superposés. Les identifier, pour notre œil, c'est impossible. Nous sommes un petit peu comme un oiseau sur une branche qui chercherait à reconstituer la forme de son arbre. Pourtant, en se basant sur la position des étoiles bleues, les astronomes ont réussi à démêler l'enchevêtrement des bras spiraux de notre galaxie et à positionner notre système solaire. En fonction des constellations que l'on regarde, on peut donc parcourir la Voie lactée. Si on regarde vers le Sagittaire, on regarde vers le centre de notre galaxie. Par conséquent, le Sagittaire contient un bon nombre d'étoiles brillantes, d'amas et de nébuleuses. Un de ces amas les plus brillants du Sagittaire, c'est M55. Il est à peu près à 7,5 degrés à l'ouest de Delta Sagittarius. M55, c'est un amas globulaire. C'est le regroupement de milliers d'étoiles dans un périmètre assez réduit. Enfin, assez réduit en termes astronomiques. Hein. On parle quand même de dizaines d'années-lumière. La plupart des amas globulaires de la Voie lactée sont observés à proximité du noyau galactique. Et une majorité apparaît dans la partie du ciel céleste centrée sur le noyau, c'est-à-dire vraiment autour de la constellation du Sagittaire. En 1918, cette distribution très asymétrique a été utilisée par Arlo Chapelet pour déterminer les dimensions de notre galaxie dans son ensemble. Chapelet a pris l'hypothèse que les amas globulaires suivaient une distribution plus ou moins sphérique autour du centre de la galaxie. Il utilisa leur position pour calculer la position du Soleil dans la Voie lactée. Et ce faisant, Chapelet a ramené le Soleil à sa véritable place, à la périphérie de notre galaxie et non en son centre. Il a ainsi montré que la taille de notre galaxie était bien plus grande que ce qu'on pensait auparavant. Elle mesure 120 000 années-lumière de diamètre. La constellation contient aussi des nébuleuses, comme la nébuleuse du Lagon, qui est M8, près de Lambda Sagittarius. Très belle vue au télescope. Et même si vous avez une bonne vue et des très bonnes conditions, vous pouvez la voir à l'œil nu. C'est pourquoi cet objet est observé depuis le XVIIe siècle. La nébuleuse de la Lagune est un immense nuage d'hydrogène et de poussière, éclairé par une supergéante bleue, l'étoile 9 du Sagittaire. La taille de la nébuleuse est d'environ 110 années-lumière et sa distance tourne autour des 5000 années-lumière, ce qui lui donne une taille apparente 3 fois plus importante que celle de la pleine Lune. Alors du fait de sa magnitude 6, la nébuleuse est visible à l'œil nu quand on a vraiment des conditions idéales. Sa taille apparente très importante nous impose au télescope d'employer un grossissement suffisamment faible pour pouvoir l'observer en entier. La région la plus brillante de la nébuleuse contient un objet particulier, répondant au doux nom de MYCN18, que l'on nomme aussi la nébuleuse du sablier, en raison de sa forme. C'est une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire c'est le résultat de la libération des couches externes d'une étoile de type solaire en fin de vie, dont on peut voir le reste de l'étoile, qui est une naine blanche maintenant, au milieu. Les photos que l'on peut trouver sur Internet sont assez extraordinaires et permettent vraiment de comprendre ce qui se passe à la fin de vie d'une étoile. D'autres objets très intéressants se trouvent dans la constellation du Sagittaire, comme par exemple la nébuleuse du Trèfle, dont on possède de très belles photos prises par le télescope Hubble. C'est une nébuleuse en émission, traversée par une nébuleuse sombre, une nébuleuse de poussière, qui donne un aspect très particulier sur les photos. En regardant dans la direction du Sagittaire, on regarde aussi vers un objet situé au centre de notre galaxie, un objet très particulier, le trou noir supermassif Sagittarius A étoile. Alors, vous ne le verrez pas à l'œil nu, vous ne le verrez même pas avec un télescope, pour la bonne et simple raison que personne ne peut voir un trou noir. Les trous noirs, ce sont des objets dans l'univers dont la vitesse de libération dépasse celle de la lumière, ce qui veut dire que ce sont des objets tellement massifs qu'ils attirent tout à eux, y compris la lumière. On ne peut donc pas les voir car aucune lumière ne peut s'échapper d'un trou noir pour le rendre visible. Les trous noirs qui se forment actuellement dans notre univers font au minimum 3 fois la masse du Soleil. Certains trous noirs géants font plusieurs millions, peut-être même plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Ces masses énormes sont concentrées dans des tout petits volumes. Un trou noir de 3 masses solaires a un diamètre de 18 km. Ce qui veut dire que c'est la masse de 3 Soleils qui est concentrée dans une boule de la taille de l'agglomération de Toulouse. Ce qui équivaut à la masse de la Terre dans le volume d'un morceau de sucre. Une densité assez inimaginable. La taille d'un trou noir est directement proportionnelle à sa masse. Et toujours la même pour un trou noir d'une masse donnée. Par exemple, un trou noir 10 fois plus massif, donc à 30 masses solaires à peu près, sera aussi 10 fois plus grand, c'est-à-dire 180 km. Un trou noir n'est donc pas forcément petit. Ainsi, un trou noir d'un milliard de masses solaires aura comme diamètre 6 milliards de kilomètres. Ça, c'est à peu près l'orbite d'Uranus, donc quasiment la taille de notre système solaire. D'après la théorie de la gravitation, plus un objet est massif, plus il attire les autres objets proches vers lui. Dans la vie de tous les jours, les objets ne sont pas assez massifs pour qu'on ressente cet effet. On ne verra pas une bille posée à côté d'une bouteille d'eau se faire attirer par la bouteille, par exemple. Cependant, des très gros objets, comme la Terre, ont une masse assez importante pour que leur gravité se fasse sentir. Ainsi, chaque objet est attiré vers la Terre, ce qui explique que lorsqu'on lance un objet, il tombe vers le sol. C'est aussi cette gravité qui fait que la Terre tourne autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la Terre. Sinon, la Lune, comme la Terre, partirait toute seule, tout droit dans l'espace. Et plus la distance est grande entre deux objets, plus la force de la gravité va diminuer, moins ils vont s'attirer entre eux. Ainsi, si on lance un objet, par exemple une pomme en l'air, elle va mettre du temps à retomber. Le temps va être plus grand selon la force avec laquelle on lance la pomme. Et si on lance assez fort, on peut lui procurer une vitesse assez grande pour qu'elle ne retombe jamais. Elle part alors dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. C'est aussi cette vitesse que doivent atteindre les fusées pour échapper à l'attraction terrestre et ainsi aller dans l'espace. Or, plus les objets sont massifs et les distances courtes entre eux, plus la vitesse de libération doit être importante. Un trou noir a une vitesse de libération plus grande que la vitesse de la lumière. La lumière ne peut donc jamais sortir d'un trou noir. Comme aucun objet dans l'univers ne peut dépasser la vitesse de la lumière, aucun objet ne peut atteindre la vitesse de libération d'un trou noir, rien donc ne peut s'en échapper. De tels objets ne peuvent donc ni émettre ni diffuser la lumière. Ils sont donc noirs, ce qui en astronomie revient à dire qu'ils sont optiquement invisibles. Toutefois, plusieurs techniques d'observation indirecte, dans des longueurs d'onde différentes, ont été mises au point et permettent d'étudier de nombreux phénomènes autour des trous noirs. En particulier, la matière happée par un trou noir est chauffée à des températures très élevées dans le disque d'accrétion. Et il émet une quantité importante de rayons X avant d'être absorbé. Envisagé dès le XVIIIe siècle dans le cadre de la mécanique classique, l'existence des trous noirs est prédite par la relativité générale. Et leur existence est une certitude pour la quasi-totalité des astrophysiciens et des physiciens théoriciens. Mais la confirmation visuelle a dû attendre quelques siècles. Un trou noir n'est détectable que par les effets de son champ gravitationnel. Une observation quasi directe des trous noirs a pu être établie en février 2016 par le biais de la première observation directe des ondes gravitationnelles. Notre trou noir Sagittarius A étoile a été observé en 2017 par le télescope Event Horizon. Et depuis, les données ont été travaillées par les scientifiques, calculées, et une image a pu être produite en mai 2022. Il faut se rendre compte de la taille de ce trou noir et de la distance à laquelle il est par rapport à nous. En fait, c'est un petit peu comme photographier un beignet qui serait sur la Lune. Alors, ce n'est pas vraiment une photographie qui a été prise, c'est un assemblage de mesures faites par des dizaines de radiotélescopes situés tout autour du globe. Ce qui équivaut à une antenne de 9000 km de diamètre, quasiment la taille de la Terre. Les chercheurs de plusieurs pays ont donc coopéré pour rassembler les données et produire une image du trou noir de notre galaxie.